autre. Non, mais il y a tellement de... Mais on va se parler comme ça, non? Non, c'est...
Et en plus, on entend rien, comme s'il y avait rien.
Mais il est peut-être pas... Tu regardes si ça, tu m'entends. Je parle, mais le plus fort, on va voir, on va essayer de mettre plus fort. Alors, oui. Oui.
C'est l'intersection d'un cône.
Alors le cône, il est à l'intérieur, le reste, on le voit pas. C'est le bord du cône. Oui, parce qu'on a tapé sur le côté. Oui, du coup ça a cassé parce qu'on a tapé suffisamment près du bord. Voilà, c'est bon. Si je tape au milieu, je vais faire l'impact, le début du cône, mais ça ne va pas aller plus loin parce que je n'ai pas tapé assez fort. Si je passe très 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 fort, j'aurai peut-être le cône complet. Mais moi, j'ai vu des centaines de milliers d'éclats de silex, j'en ai trouvé que deux cônes complets. Alors c'est précieux, mais je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, parce que c'est très rare, donc c'est pas intéressant. Voilà. Et alors si je tape là, ça fait rien qu'un enfoncement de matière, mais c'est un peu enfoncé. Mais si je tape ici, voilà, regardez les petits cônes, vous voyez, les arrondis, et on a le petit cône, on a la trace de mon choc dessus, et ça s'est détaché. Eh bien, le premier tailleur, le premier homme qui a taillé du silex, il a fallu qu'il comprenne ça, ne pas taper n'importe où. D'abord de choisir la bonne matière première. On ne fait pas un outil en pierre avec n'importe quelle pierre, et on ne tape pas n'importe comment, et surtout, on choisit le bon marteau. Je ne vais pas prendre ce marteau pour faire un grand éclat, il est trop léger, il est mal. Par contre, on prend un gros marteau pour faire un gros éclat. Donc voilà. Alors, le bon son, hein, le bon soin du silex, vous voyez, et taper où il faut. Voilà. Et ça, on a un éclat, et un éclat, c'est extrêmement coupant. Alors, le premier outil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un éclat coupant. Hein? Alors, l'homme préhistorique, souvent, c'était... parce qu'on est tous issus, on vient tous d'Afrique. Hein? En Afrique, on a trouvé ce qu'on appelle des galets taillés, c'est-à-dire des galets dont on a pris un autre galet, on a sorti des éclats, parce que leur matière première, c'était un galet. Mais on aurait pu prendre n'importe quel autre bloc. Mais sauf qu'ils vivaient au bord des rivières, et qu'est-ce qu'ils trouvaient? Ils avaient surtout des galets entraînés par la rivière. Ils n'ont pas, comme 3 millions d'années plus tard, fait des puits pour aller chercher du silex, comme ici, là, au nord de Presles, là, à 8 mètres de profondeur. Hein, ou à 15 mètres, je ne sais pas, en Belgique, à des profondeurs. Ils ont fait des mines pour aller chercher du bon silex. Parfois, ils ont eu de la chance. Ici, c'est au sud de Paris, c'est près de Corbeil, hein, en face d'Evry. C'est la Seine et un petit affluent de la Seine qui ont abîmé la falaise, qui ont érodé et qui ont mis au jour du silex de très bonne qualité. Et ce silex, on a des pavés énormes et on a pu faire des gros éclats et puis des grandes lames, on va le voir. Alors, le premier outil, le voilà, c'est un éclat de silex coupant. Alors celui-là, il n'est pas très coupant parce qu'il y a de la croûte autour. Hein. Alors on va en prendre un autre. Voilà. Si on veut montrer quel est le premier outil, c'est ça. Ça, c'est un outil. Pourquoi? Parce que s'il y a une vache par terre qui est morte, on a tué une vache, pour manger la viande, il faut couper la peau. Et de la peau de vache, ça fait 1,5 cm d'épaisseur. Essayez de couper une peau de vache avec... Tu as ton biface? Merci. Bon, essayez de couper une peau de vache avec cet outil biface. On va pas y arriver. Il va falloir scier. Vous voyez, c'est le chirurgien qui veut opérer, par exemple, faire une césarienne, il veut ouvrir. Il va pas ouvrir avec un outil comme ça, il va ouvrir avec ça. Ça, c'est l'effet cutter, c'est la lame de bistouri. Et encore, il est un peu épais. Si vous voulez que je vous ouvre une patte de vache, je vais prendre ça. Hein, ça, on peut ouvrir, on peut tout faire avec ça. Donc voilà le premier outil. Et ça, il n'y a que l'homme qui est capable, l'homme et les ancêtres de l'homme, qui sont capables de le faire. Un singe, même le plus évolué, un bonobo ou autre, il est incapable de... Tu vas me préparer un racloir. Il est incapable d'avoir l'idée de prendre un marteau, de taper et de faire un couteau. Il l'utilisera si on lui donne. Il le fera si on lui apprend, si on lui montre au bout de quelques mois. Mais d'emblée, il n'en a pas besoin. Et l'homme, lui, en a besoin pour manger parce que il n'a pas les dents suffisantes, il n'a pas les griffes suffisantes pour pouvoir manger. Eh bien, cette façon de faire des éclats, c'est donc les premiers outils qui sont apparus en Afrique. Et pendant 1 million d'années, ça va suffire comme outil. Le besoin n'est pas plus important que ça. L'homme, sa cervelle va grossir, vous savez, au cours du temps. Hein, l'homme passe d'une cervelle d'un demi-litre à une cervelle maintenant de 1,5 litre. Bah, la cervelle grossissant, les idées vont changer, vont devenir beaucoup plus compliquées, bien sûr. Et l'étape suivante, c'est de faire des outils beaucoup plus compliqués. Tu as ton gros biface aussi ? Là-bas, je vais te laisser. Alors, faire des outils plus compliqués qui servent à beaucoup plus de choses. Voilà. Ici, on a pris un gros éclat de silex. Alors, déjà, il est gros comme éclat. Alors, il faut un marteau sûrement très gros pour le faire. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici ? Mon fameux petit cercle de contact. Donc, ça veut dire qu'il a tapé avec un marteau en pierre, un percuteur en pierre sûrement sphérique, puisqu'on voit la trace. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai par exemple, j'ai besoin, alors les hommes préhistoriques, ils ne vivaient pas torse nu, ils vivaient habillés. Les livres de préhistoire, pour les jeunes en particulier, où on voit un homme préhistorique torse nu en train de chasser le renne, vous fermez le livre, c'est pas la peine de continuer. Hein, il était forcément habillé, on ne se promène pas torse nu dans la neige. Hein. Ben, pour s'habiller, il faut de la peau, il faut préparer les peaux. La peau, ça se prépare, ça se nettoie, ça s'assouplit. Et puis ça a subi un traitement, hein, ça se tanne, ça subit une conservation, bien sûr. Et bien pour préparer une peau, si je prends ce grand éclat, par exemple, ben, je peux préparer la peau comme ça. Mais, vous voyez, ça va faire des rayures, ça va l'abîmer parce que mon tranchant est irrégulier. Hein, et je vais risquer de trouer la peau et de l'abîmer, c'est dommage. Il faut donc un outil dont la partie active est régularisée. Hein, régularisé, c'est-à-dire avec un autre outil qui peut être un petit galet, si vous voulez. Il nous a retiré des petits éclats comme ça pour bien le rendre bien régularisé. Et avec ça, je peux travailler la peau, je risque pas de la percer. Ça coupe moins, c'est sûr, mais c'est plus régulier, c'est renforcé, c'est moins dangereux, si vous voulez. Ça s'appelle un racloir. Alors ça, à toutes les époques de préhistoire, on va le voir, à toutes les époques où on fabrique des vêtements en cuir, et bien sûr en cuir. Hein. Voilà. Alors, à une époque, il y a presque 2 millions d'années, parce que les premiers outils, maintenant, ils datent de plus de 3 millions d'années, si vous voulez. Hein. Vers 2 millions d'années, l'homme, tu as ton biface, puis on va le... le grand, pour montrer quelque chose qui fait peur. Oui, voilà. L'homme va... par instinct, par on ne sait pas, il va tailler les silex sur les deux faces, il va faire l'outil qu'on appelle un biface. Hein, vous avez entendu parler, bien sûr. Et là encore, pendant 1 million d'années, il va en faire. Alors, c'est pas facile à faire. Il faut d'abord beaucoup de matières premières, et en le faisant, ça va réduire. Il faut savoir faire, il faut organiser des enlèvements, et il faut avoir en tête l'image de ce qu'on veut faire à la fin. C'est-à-dire quelque chose qui a deux faces, quelque chose qui a une forme d'amande et quelque chose qui est symétrique de profil. Hein. C'est plus ou moins symétrique de profil. Ben ça, c'est très compliqué. Et déjà, là, il y a un stade de cogitation un petit peu différent de faire ça. Et puis surtout, il a fallu mettre au point une technique pour le faire. Alors la méthode, c'est de bien organiser tous les enlèvements. Et la technique, c'est avec quoi on le fabrique. Eh bien, au début... il va le fabriquer avec un marteau en pierre, mais c'est pas suffisant. Il ne va pas obtenir un épluchage. Hein, c'est de la sculpture. Comme quand on coupe une pomme de terre, on l'épluche, c'est-à-dire qu'on l'épluche finement pour garder le maximum de pommes de terre pour que les épluchures... Hein, quand vous pelez les pommes, les enfants, vous faites les peaux de pommes la plus fine possible pour avoir le plus de pommes à manger. Hein. Bien, c'est pareil, il faut... essayer qu'il reste gros, solide, puisque vous avez une pièce solide. Alors, il va prendre non plus un marteau en pierre, mais il va prendre un marteau en bois. Alors, soit en bois végétal, soit en bois animal, c'est-à-dire du bois de serre ou du bois de renne, selon les pays. Bon, en Afrique, on prendra plutôt du bois végétal, parce qu'ils ont des bois très solides, très durs. Puis du renne, il n'y en a pas beaucoup. L'antilope, c'est pas assez lourd. Et avec un os, ça marche pas très bien. Eh bien, avec son marteau qui est ici en bois de serre ou en bois de renne, il va continuer de sculpter son biface ou son bois végétal. Il va enlever des éclats et dès que tu auras un bon éclat, tu me le donnes. Voilà. Alors voilà. Tout à l'heure, vous avez vu les éclats qu'on retirait. Enfin, celui-là, il est grand, mais l'épaisseur d'un éclat qu'on pouvait retirer. Voilà le genre d'éclat épais. Ici, regardez l'épaisseur. Il est même tellement fin qu'il n'y a même plus le départ. Vous voyez la finesse, on dirait une épluchure de pomme de terre. Eh bien ça, on ne peut le faire qu'avec un morceau de bois. Tu as un talon de... Tu peux... Oui, ça, donne-moi un petit éclat avec un talon. Mais très mince, voilà. Alors, le talon, au lieu que l'on voit un rond, parce que c'est un marteau en pierre qui avait tapé, on voit une lèvre. Une lèvre, pourquoi? Parce que son engin, son percuteur, a tapé... comme ça, transversalement, a fait un petit rectangle. Hein, c'est pas un rond, hein, c'est longitudinal, hein, la zone de contact. Alors, quand on voit un éclat comme ça, on dit « Ah, il a voulu tailler un biface. Hein, » c'est caractéristique. Mais avant de taper, il a pris, vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, enfin à l'instant, il a pris un caillou, et regardez ce qu'il fait. Il frotte, comme ça. Et c'est une manie de tailleur de tout le temps frotter. Hein, il frotte parce que... Eh bien, il prépare l'endroit en fait où son marteau en bois va taper. S'il tape directement sur une arête tranchante, ben, il va abîmer son marteau et puis il va pulvériser, il va faire de la poudre de silex, il ne va pas détacher de grand éclat. Hein. Il faut que le marteau tape sur une surface. Très bien. Voilà, vous voyez le genre d'éclat qu'on peut sortir avec un marteau en bois. Alors c'est vrai que ça surprend toujours quand on l'a dans les écoles, ça surprend les enfants, on leur dit, ah, on, voilà, vous voyez, l'éclat est reconstitué, il se casse souvent l'éclat quand il se détache, hein. Mais voilà, reconstitué, voilà l'endroit où on a tapé. On pourrait jamais avec un marteau obtenir un éclat aussi fin. Si on pourrait, avec une pierre tendre, hein, un peu plus solide que la craie quand même, mais il y a des pierres qui sont assez tendres, vous voyez, une pierre comme ça où il y a de la croûte tendre, on pourrait y arriver, mais c'est pas facile, voilà. Alors un autre, alors plus ou moins épais. Alors quand on trouve ça dans une fouille par terre, on dit, oulala, il a tapé avec un marteau en bois et il a dû vouloir faire un truc bifacial. Alors soit une feuille de laurier pour tirer sur les rennes, soit un biface pour faire, on va voir quoi tout à l'heure. Donc voilà, donc deux méthodes de taille, au marteau en pierre et avec un bois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un biface? Ben, un biface, premièrement, ça se tient à la main. On va pas l'emmancher, voilà, merci bien, voilà. Deux sortes de biface, un petit, un grand. Ça se tient à la main, c'est un couteau à main. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut couper avec ça? Est-ce qu'on peut couper de la viande avec ça? Bah oui, alors, bon, couper un beefsteak dans l'assiette avec ça, on n'y arrivera pas. Et avec ça, mon beefsteak, il n'y a aucun problème. Hein, on le coupe. Donc ça sert à autre chose. Couper des branches. D'accord, mais 8 fois sur 10, il faisait froid. L'homme a vécu dans le froid. Hein. Les dernières époques glaciaires qui duraient 100 000 ans, il y avait 80 000 ans de froid, 20 000 ans de chaud, et pendant le froid, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, il n'y avait pas beaucoup de choses à couper en bois ou de matière comme ça. Alors, en fait, ça sert, par exemple, après qu'on ait ouvert la peau d'une bête, pour décoller la peau de la viande. Et ça, à la main, on peut pas, c'est à moins d'avoir une main très forte. Ça sert de prolongement de la main, par exemple. On fait comme ça, ça aide à décoller. Hein, c'est possible. Et effectivement, en regardant au microscope, sur les outils préhistoriques, on peut savoir à quoi ils ont servi. Ça s'use, un outil. Alors, ça paraît drôle. Alors, bien sûr, si je fais ça, bah, on comprend que ça va s'user. Hein, ça... Mais si je coupe de la viande, ben, ça s'use aussi, même très vite. Mais pour voir l'usure, il faut prendre un microscope. Il faut grossir beaucoup, au moins 400 fois. Et on prend ce qu'on appelle des microscopes métallographiques. C'est des microscopes pour vérifier que quand on a une pièce en métal, qu'elle soit de bonne... Enfin, autrefois, maintenant on a d'autres moyens pour vérifier. Mais autrefois, on regardait les pièces en métal pour voir si elles étaient bien. Il n'y avait pas trop de défauts. Hein, on regardait la surface. Maintenant, on a d'autres moyens, bien sûr. Et on s'est aperçu que ça servait surtout donc à racler des os, couper de la viande ou casser des os. Pourquoi on casse un os d'une bête? Pour récupérer la moelle. Hein, la moelle, c'est bon. Voilà. Vous savez ce que c'est que la moelle dans un os? T'as déjà mangé de la moelle dans un os? Peut-être pas souvent, hein. Non, plus à part, on aime ou on n'aime pas, hein. Je suis d'accord avec toi, moi j'aime pas ça. Mais enfin, la moelle, ça apporte des graisses. Et quand il fait froid, il faut des calories, il faut grossir, il faut pas maigrir, alors on mange de la moelle. Et les hommes préhistoriques devaient être de gros mangeurs de moelle, parce que tous les os des bêtes qu'on trouve autour des habitats préhistoriques sont cassés en 1000 morceaux. Hein, ils extrayaient beaucoup la moelle. Donc voilà. Donc ça sert à pas grand-chose, et pourtant c'est compliqué à faire. Hein. Il faut presque une heure pour faire un biface. Ben c'est dans la tête de l'homme. L'homme, il est fait pour faire des choses compliquées. Regardez les voitures. Une voiture, ça pourrait être compliqué. Hein. Ça pourrait être une caisse avec 4 roues, un volant et un moteur. Ben non, c'est compliqué. Il y a des fleuritures. Il y a un look. Il faut que ça soit beau. Voilà un peu. C'est dans l'esprit de l'homme. Comme l'oiseau fait son nid, et quelquefois de façon très compliquée, l'homme, il fait des bifaces. Il a toujours besoin de tailler sur les deux faces. Enfin, toujours. Souvent, il a besoin de faire ça. C'est dans tous les pays du monde, tous les hommes, autrefois, ont fait des bifaces, sans même qu'ils se téléphonent pour dire « je vais faire un biface » et comment je le fais. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on fouille et qu'on récupère des bifaces, ce qui est rare, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on trouve des bifaces, parce qu'ils sont très vieux, les bifaces. On les voit à partir de 500-600 000 ans en France. Mais depuis ce temps-là, comme ils vivaient au bord des rivières et que les rivières débordaient facilement, hein, quand il fait froid, quand ça se réchauffe, hein, y a des crues, ça entraîne des galets, ça abîme les berges. Les silex sont abîmés, si vous voulez. Mais quand c'est conservé et quand on regarde les éclats de fabrication, eh bien, un éclat sur 10 en moyenne a été utilisé pour couper. Donc, il servait de ça, mais il servait aussi des éclats qui en venaient. Alors, ça veut dire que ça, c'est aussi une source de matière première. Et quand un chasseur de cette époque, il y a 500 000 ans, un Homo erectus, partait, et il emportait son biface, parce qu'il savait qu'il était de bonne qualité, ce biface. Puisqu'il avait pu être fait comme ça, donc c'était du bon silex. Et il était sûr qu'en donnant un petit coup de marteau dessus, il pourrait détacher un petit éclat de bonne qualité qui servirait de couteau. Ça sert de matière première. Alors le problème, c'est que dans les musées, hein, Saint-Germain-en-Laye et ailleurs, on met en vitrine des beaux bifaces, mais des bifaces qui n'ont souvent pas servi. Alors que 19 fois sur 20, qu'est-ce qu'on trouve? Des bifaces tout déformés, bah, qui ont servi de matière première. Donc les bifaces, c'est quelque chose de beau, de pas très utile dans l'immédiat comme outil, qui peut servir bien sûr si je veux couper une branche, tout ça, ou si je veux taper sur la tête de mon voisin, bon bah, voilà. Mais c'est aussi une réserve de matière première qu'on met dans la sacoche. Hein. Et souvent on les trouve dispersés dans la nature, abandonnés, perdus, pas forcément là où on habitait. Et souvent, les bifaces, quand on regarde le silex, on dit tiens, mais c'est du silex qu'on trouve qu'à 20 km d'ici. C'est un outil qui voyage. Donc le biface, ça se tient à la main, ça voyage, ça se transforme. Donc c'est un tout. Tout ça, c'est. Et pendant 1 million d'années, l'homme va l'utiliser. Donc c'est un marqueur important de l'homme, de l'intelligence. Plus que de calculer le volume du cerveau ou l'épaisseur du crâne ou tout ça. Hein. Le cerveau, ça ne veut rien dire. On peut avoir une petite cervelle et être très, très, très malin. Anatole France avait un cerveau qui faisait 1 litre. Gambetta avait un cerveau qui faisait plus de 2 litres. Ils étaient aussi intelligents l'un que l'autre. Donc ça, c'est encore un marqueur plus important pour comprendre l'homme, à mon avis. Là, je me fais plein d'ennemis, tous ceux qui collectionnent les crânes. Il faut les deux, bien sûr. Là, je blague un petit peu en disant ça. Donc voilà, un outil très complexe. On n'a pas fini de le connaître. Hein. 1 million d'années d'utilisation. Et cet homme qui utilisait les bifaces, il va être coincé en Europe de l'Ouest à cause des glaciers, les glaciers des Alpes, les glaciers de la Scandinavie, la Hollande, tout ça était sous les glaces. Et il va vivre sur lui-même, en petit nombre, il va se transformer, il va prendre une tête curieuse qu'on va appeler l'homme de Néandertal. Sur le premier, on l'a trouvé en Allemagne. On aurait pu l'appeler l'homme de Spie si on avait suivi la chronologie exacte, parce que le plus ancien a été trouvé en Belgique. Hein. Donc voilà, cet homme, il n'aime plus beaucoup faire des bifaces. Il en fait, mais des comme ça, des petits. Et quand on les trouve, souvent, ils sont très déformés. Par exemple, j'ai mon biface dans mon sac, j'ai besoin de me fabriquer une sagaie, parce qu'ils aimaient bien avoir des sagaies pour attaquer les bêtes directement. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. J'ai besoin d'une sagaie, je vais enlever toutes les branches. Bah, il faut bien que j'ai un couteau pour le faire. Mais ensuite, je veux racler ma sagaie, qu'elle soit bien régulière. Est-ce que je peux la racler? Pas très bien. Je vais faire ce qu'on appelle une encoche, une grande encoche. Alors, il va prendre son marteau, qui est un marteau en bois, parce que l'homme de Néandertal, il n'aime pas beaucoup les marteaux en bois, il aime les marteaux en pierre, et il va me faire une grosse encoche, la plus grande possible, à partir du biface. Alors, il va le déformer, il va être moins beau pour un collectionneur. Oui, mais il va être efficace. Et il y a une petite vitrine là dans l'autre salle là-bas où j'ai mis un biface et les transformations possibles du biface en fonction des besoins. Et c'est pour ça. Comment ? Non, non. Ah ben si tu veux. Oui, fais-moi le une encoche et ensuite un coup de tranchée. Alors, on a appelé ça un peu le couteau suisse de la préhistoire, c'est-à-dire un outil à multifonction, si vous voulez. Sauf qu'un couteau suisse, il suffit de refermer les lames et puis il reste intact, parce que le biface, il en prend un coup. Mais du silex, quand il y en a, il y en a. On peut en trouver facilement. Alors, il va me faire donc une encoche pour que je puisse régulariser ma baguette. Alors, on le sait parce qu'on a étudié au microscope les traces d'usure sur l'encoche et on sait que ça a frotté du bois. C'est un néandertal très minutieux qui a déjà une très grosse cervelle. Ouais, discrète ton encoche. J'ai un gros morceau de bois. Voilà, il m'a fait une encoche, il l'a encoché. Voilà. Alors ça, c'est efficace, il peut racler, vous voyez, il peut racler si vous voulez, pas que j'abîme son percuteur, voilà. Alors maintenant, je voudrais couper une peau, quelque chose de très coupant. Alors couper une peau, il suffit que je fasse tomber un petit éclat et j'ai mon couteau. Mais alors je voudrais maintenant, justement, dépecer la bête, retirer la peau. Alors tu me fais un truc oblique. Il va essayer de me faire un outil qui permet de, quand on tient la main, de décoller la peau, un décolle-peau si vous voulez. Donc voilà, un outil peut être évolutif. Hein. C'est pas parce qu'il a une forme au départ qu'il aura la même forme à l'arrivée. Hein. Alors souvent, le biface garde la même forme, le grand biface de cet homme. Celui de Néandertal, il va changer. Alors donc dans la vitrine, il y a un biface qui a une tête assez humaine et après il se dégrade parce qu'il a été affûté. Donc comme un couteau suisse, multi-usage. Tout chasseur, quand il se promène, quand il chasse, il n'a pas envie de trimballer avec une boîte à outils avec 15 kilos de matière. Comment ? Un coup de burin, ça faille. Alors voilà, il m'a fait un tranchant comme ça, qui devrait être un peu plus oblique et qui devrait servir de tranchant, si vous voulez. C'est très dur de tailler du silex. Hein ? Il faut des années d'apprentissage. On croit comme ça, enfin, essayez, ça, vous verrez, c'est pas évident. Hein, il faut avoir des notions de base et travailler. Hein, un étudiant en préhistoire, voilà, l'archétype, il met des années avant d'être à l'aise. Hein. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas montrer des. Il y a des gars qui taillent, ils vous font des trucs fabuleux. Oui, mais en préhistoire, c'est pas de faire des trucs fabuleux, c'est de faire des trucs pratiques, hein, d'avoir des besoins. Alors, cet homme de Néandertal, il va surtout vivre à partir d'éclats. Hein. Et d'ailleurs, ces éclats, c'est pas toujours facile. Il les fait des fois à partir d'une espèce de carapace de tortue, assez bombée, et par un dernier coup, il détache un éclat. J'ai pas mon modèle, là, je l'ai laissé là-bas. Il détache un éclat tout prêt à l'emploi. Tiens, tu nous prépares une lame ? Comment je vais chercher mon nucléus levallois ? Je vais vous montrer un nucléus d'homme de Néandertal, je vais le chercher. Il est en plastique, mais il est net. Prenez des chaises, hein, surtout. Prenez des chaises, il y en a. Elles sont à nous, hein. Puis à vous. Enfin, à nous, quoi. Alors, encore un mot donc, sur cet homme de Néandertal. Voilà un éclat typique d'homme de Néandertal. C'est-à-dire qu'il est mince. Il a une forme comme ça, et bon. Et bien, quand on en trouve 10, 20 qui ont la même forme. Ils arrivaient à faire des outils en série. Alors le talon, on a tapé, qui est souvent tout plein de petits coups ici, parce que c'est la préparation. Je vais vous montrer pourquoi. Et il a cette forme un peu en nez de Concorde. Alors les jeunes qui n'ont jamais vu de Concorde, ils ne savent pas. Tu sais ce que c'est qu'un Concorde ? C'est un avion, hein, qui avait un bec un peu comme ça, un peu en nez de Concorde, on dit. Hein. Et puis, alors ça, on l'a trouvé beaucoup, beaucoup, vers 1880, à Levallois-Perret. Le Valois, là, à côté de Paris, quoi, vous connaissez, parce qu'il y avait des carrières de sable et de gravier au bord de la Seine. Et comme les rivières attirent la vie, on campe plutôt près d'une rivière parce qu'on a l'eau, parce qu'on a le silex avec les galets ramenés par la rivière, drainés par la rivière. Et puis on sait que les bêtes, elles viennent boire aussi dans la rivière. Alors on a un petit peu tout ce qu'il faut là pour pouvoir vivre. Alors ils trouvaient ces éclats beaucoup, et puis de temps en temps ils trouvaient ça, ce bloc. Et ce bloc, on dirait une carapace de tortue un petit peu. Et puis un jour, le gars qui s'est passionné, il a trouvé l'éclat qui se remontait dessus. Alors qu'avant, on disait ça, c'est un outil. On appelait ça un discoïde. Enfin, on croyait que c'était un outil, on ne savait pas trop. En fait, non, c'est le bloc de matière première, c'est la matrice qui rejetait ensuite, n'avait plus besoin. Et gardait ça. Ça, c'était la belle pièce. Ça se vendait. Ça n'avait aucun intérêt. Alors, quelle perte de matière première, vous rendez compte? Il fallait tout sculpter ça, préparer pour, à partir de cette surface, de fabriquer une surface assez courbe, pas trop, assez courbe comme ça, et longitudinalement peu courbe, mais un petit peu. Ici, avec un petit marteau en pierre, il détachait des petits éclats. Et par un dernier coup, avec un gros marteau en pierre, ils tapaient quasiment sans regarder, parce qu'ils avaient préparé ça en chapeau de gendarme. Alors maintenant, vous savez plus ce que c'est qu'un chapeau de gendarme. Autrefois, les gendarmes avaient un chapeau qui était comme ça. Enfin, je vous parle autrefois en 1850, au temps de Napoléon et après, Napoléon III. Et voilà. Et ça, voilà l'outil et voilà la matière première qui était rejetée. Alors, si j'habite en Bretagne où il n'y a pas de silex, ça, on ne trouvera pas. Et si j'habite dans des régions pauvres en silex, ça, ce sera tout petit. Mais souvent, il utilisait aussi les éclats de préparation. Mais pas forcément. Il voulait, ça, c'était plus vendable. C'était plus échangeable. Les gens aiment... un artisan, il a ses outils, il a son marteau, et il aime les beaux outils habituellement. Il a ses outils à lui. Avoir son burin, avoir son tournevis, on aime bien avoir son propre outil. Voilà le genre de choses que l'on pouvait trouver. Alors, cet homme de Néandertal, il va disparaître. Alors, on ne sait pas pourquoi trop. Enfin bon, il y a plein d'exposés là-dessus, et l'année prochaine. Ou encore peut-être ce soir, non, l'année prochaine. Et un autre homme va arriver, c'est nous, l'homme moderne, Homo sapiens, homme de Cro-Magnon, si vous voulez. Un autre homme arrive. Toujours venant d'Afrique, on vient toujours d'Afrique, on est africains tous, toujours d'Afrique. Et lui, il se complique encore, pas autant, mais presque, enfin autant, plus la vie même. Il fait des éclats qui sont non plus arrondis, ronds ou ovalaires, ou quelquefois triangulaires, mais des éclats longs. Il fait des lames. Il ne se contente plus de peler en surface, mais il va peler en épaisseur. Vous pouvez, si vous voulez tailler du silex sans silex, vous prenez une pomme de terre, un couteau, et vous pouvez faire n'importe quoi en pomme de terre. Ça marche pareil. On peut faire des lames en pomme de terre. Moi, quand je fais des frites, je fais des lames. Ça m'amuse à faire des lames. Alors, première lame à faire, je vous lis tout de suite, parce qu'il a déjà brûlé une étape. Il faut faire une crête. Il faut préparer la première lame, un plan, et on tape. Et la première lame, c'est ce qu'on appelle une lame à crête. Comme un avant de navire, une proue de navire, voilà. Et ensuite, tu montes tes nucléus qui est à ta gauche, là, vous savez. Ensuite, il va profiter des cicatrices des lames précédentes pour qu'elles guident les lames suivantes. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais à faire, c'est difficile. C'est difficile, il ne faut pas taper n'importe où, et le moindre petit défaut est embêtant. Alors, voilà. Il a fait une petite lame. Voilà, une lame détachée. Ça a l'air comme ça simple, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Et là, devinette, avec quoi il a détaché ça? Est-ce qu'il a pris un marteau en pierre? Alors je regarde ici, et je m'aperçois qu'il y a un tout petit endroit où on a tapé seulement qui est parti, et que c'est sûrement pas une pierre ronde, qui aurait fait un rond, si vous voulez, et il a dû prendre un marteau en bois, ou en bois de renne, ou en bois de serre, pour détacher ça. Alors, qu'est-ce que t'as pris pour le détacher, ça? T'as pris quoi pour le faire? T'as pris ton marteau, voilà. Bon, je le savais, je l'avais vu, mais voilà. Mais c'est très net. Alors, je vous ai montré la première lame qu'on pouvait détacher. Voilà, c'est comme un avant de navire, vous voyez. Voilà, la première lame qui est enlevée, qu'on a préparée, et qui laisse une cicatrice, si vous voulez. Et ensuite, on suit la cicatrice pour retirer les suivantes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lame? Alors, on peut en faire un couteau. Mais, encore une fois de plus, un tout petit éclat, ça coupe mieux qu'une lame. La lame, ça sert de support d'outil. Ça sert, par exemple, à faire une pointe de lance. Alors, il va prendre une lame un petit peu plus grande pour nous faire... Ah, celle-là, elle est belle, oui. Ou tu feras autre chose, peut-être un burin, ouais. Il va nous faire une pointe qu'on va pouvoir coller à l'extrémité d'un manche à balai, hein, d'une hampe, pour faire une pointe, une lance, une sagaie pour tuer les rennes. Ah, vaut bien tuer les bêtes pour manger.
Oui.
Hein, tu manges bien de la viande.
Oui.
Ah, yeah. Voilà. Il va nous préparer donc une pointe de lance, si vous voulez. Une pointe de lance en silex. À partir d'une lame. Alors, c'est un inconvénient, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est très piquant, le silex, et c'est coupant. Donc, vous aurez une pointe de lance qui pique et qui pénètre bien, qui est coupante. Mais si elle tombe par terre, ça se casse comme du verre. Si je rate mon coup, elle tape dans une pierre, elle explose. Bon, quand elle rentre dans la bête, souvent, qu'elle touche un os, elle s'éclate aussi. Mais elle est rentrée dans la bête et elle a fait du dégât. Hein, c'est l'explosion interne. Voilà. Donc, ça a des inconvénients. C'est pas solide. Mais les préhistoriens sont très contents quand ils en trouvent une, parce que c'est pas solide. Et quand ils la trouvent cassée, ils sont encore plus contents. Une pointe belle, pointe entière, bon, c'est pas intéressant, parce que bon, ben, c'est une belle pointe entière. Mais quand elle est cassée, ça fait poser la devinette suivante. A été fixée sur quoi? Sur une flèche, de flèche à l'arc, ou sur une sagaie qu'on lance avec un propulseur? C'est avec une rallonge, avec un bâton, on lance les lances. Ben, il faudrait qu'on regarde une image pour bien voir. Et on expérimente, on fabrique plein de pointes, on lance plein de sagaies sur des carcasses d'animaux morts, bien sûr. On tire à la flèche ces mêmes pointes et on regarde les cassures contre les os. Et on s'aperçoit quand on lance avec un propulseur, la lance très fortement, ça pulvérise le bout de la pointe de la sagaie. Si on lance à l'arc, la cassure est différente. Et on peut dire, ah, ces gens-là, ils chassaient à l'arc, ou ces gens-là, ils chassaient avec une sagaie. Enfin, le dire à peu près. Hein, on a toujours une marge d'erreur, bien sûr. Hein. Il suffit qu'il ait marché ou qu'il ait fait tomber sa pointe du haut de la colline pour que ça fasse autre chose, bien sûr. Tu me l'as fait, la petite pointe pointue ? Elle vient de casser. Accident de taille. Hein. On peut casser. Difficile de tailler. Alors, à une autre époque, ils se sont dit, mais c'est un peu idiot de tailler du silex toute la journée. C'est fatigant, faut se promener pour trouver de la matière première. On va faire des pointes de sagaie en bois de renne. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'elle est trop fine. Vous avez compris, vous voyez, il y a un harpon là. Voilà, le genre de pointe qu'on peut faire. Bon, là, on a fait des dents, ça s'appelle un harpon. Hein, pour les enfants, voilà, en bois de renne. Voilà un morceau de bois de renne ou un bois de serre, c'est quasiment pareil. Il va falloir, alors le bois de renne ou le bois de serre, à l'intérieur c'est un peu spongieux, c'est un peu creux, c'est pas dense, donc c'est pas intéressant. Ce qui est bon, c'est la croûte qu'il y a autour. Hein. C'est comme la mie de pain au milieu, puis la croûte autour. C'est bon, c'est la croûte, voilà. Ah oui, l'exemple habituel, vous voyez, on voit... Comment ? C'est plus solide qu'un os, c'est comme un os. Mais sauf qu'il y a des os qui sont tout creux, complètement. Mais les os à moelle sont comme ça, voilà. C'est la médulaire, c'est la moelle. Et il va falloir détacher une sagaie. Alors à des époques, ils ne sont pas embêtés, ils ont pris un gros marteau, ils ont tapé très fort sur le bois de renne, et ça le casse. Comme on se casse la jambe quand on prend un pare-choc de voiture. D'ailleurs, en plusieurs morceaux, en aile de papillon, comme on dit, hein, des morceaux pointus. Alors on peut faire des sagaies, mais courtes. Mais je veux une sagaie longue. Merci. Tu prépares un burin, s'il te plaît. Une sagaie longue. Alors, comment scier le bois de renne en longueur? Alors, je fais un petit retour en arrière. Hein, on appuie sur le bouton, il marche arrière. Voilà, une pointe, un couteau. Couteau, ou pointe de lance. Vous allez me dire, mais elle est un peu tordue, un peu voûtée. C'est pas grave. Ça pique, ça coupe. Et on peut même la fixer comme ça sur la sagaie. Ça pique, ça rentre, et ensuite ça élargit la plaie. Et ça a plus de risque même de blesser la bête. Et il y a une époque, hein, elles sont un peu plus petites, la dernière époque, après l'âge glaciaire, on trouve par exemple à Rueil-Malmaison, c'est pas si loin d'ici, hein, on a trouvé sur 28 000 mètres carrés, un bel appartement, 28 000 mètres carrés, des restes de huttes, de chasseurs, de chevaux surtout. Et on trouve des petites pointes comme ça, ou un peu plus petites, hein, qui sont gibbeuses et qui étaient sûrement fixées comme ça latéralement. Et on a expérimenté, et on peut avec une pointe comme ça, une pointe de lance ou de flèche, on peut tuer un sanglier. Donc des pointes extrêmement dangereuses. Hein. C'est un couteau qu'on vous envoie dedans. Voilà. Mais fragile. Alors, je veux scier mon bois de renne. Alors scier, il faut une scie. Est-ce qu'on peut avoir une scie en silex ? Impossible, une scie, ça doit être des bords parallèles. Ça peut être qu'à l'âge du bronze ou du fer, on peut avoir des scies. Plutôt à l'âge du fer, c'est plus solide. Donc une scie en silex, les gens qui disent « Ah, j'ai trouvé une scie », non, on peut pas. Ça, on appelle ça une scie, mais on peut pas scier. Parce que le silex, il va se coincer tout de suite. Hein. Il est mince ici, il est épais là, ça va coincer, puis c'est pas régulier tout ça. Par contre, ils ont inventé... Ah, c'est parfait. T'as le morceau ? Donne-moi, c'est impeccable. Ouais, la mode, pour l'instant, on va garder ça, puis tu vas le taper pendant que je fais mon cinéma. Il m'a fabriqué une scie à une dent. Bon, alors c'est un mot un peu amusant, mais c'est un préhistorien qui le disait, il n'avait pas tort, c'est facile à expliquer. Une scie à une dent, en prenant une lame, en faisant des petites retouches comme ça, et en tapant et en enlevant dans le bord de la lame une autre petite lamelle, une lamelle. Qui s'est cassé, mais c'est très habituel. Hein. Et cet engin, pour comment c'est cassé, ça s'appelle un burin. C'est un burin, et ça c'est la chute du burin. Je suis pas bon, je suis juste n'importe quoi. Voilà. Ah bah oui, alors, bravo. Voilà. Voilà le morceau qu'il a retiré. Voilà, vous voyez, il a retiré ça. Pourquoi ? Pour faire un angle droit. Alors, je prends toujours le même exemple, mais quand j'étais petit, je te le passe dans quelques instants, on écrivait à l'encre, on renversait de l'encre sur les tables, on salissait les tables, et fin juin, l'instituteur, il nous faisait nettoyer nos tables, on grattait les tables. Et on grattait avec quoi ? Il nous disait, tiens, vous avez cassé une vitre en jouant au ballon, interdit de jouer au ballon, vous avez cassé une vitre, prenez les morceaux de verre, vous allez gratter vos tables avec. Ben, on ne prenait pas un morceau de verre comme ça. Parce que gratter une table avec ça, c'est... Attendez, les petits morceaux qui crissent, c'est pas bon. Par contre, on prenait le bord de la vitre qui était cassé angle droit, et avec ça, je peux gratter, tant pis. Celui-là ?
Ouais, non, sur le...
Ça ? Ah oui, d'accord. Très solide, c'est un angle droit. Voilà, le secret du burin. Alors, ça, c'est bien pour... Je vais la faire plus en plus pointue, hein, pour l'affûter, si vous voulez. Hein. Mais ça sert aussi à, je vais pas le faire, t'inquiète pas, à tracer un sillon et à l'agrandir. Je vais pas lui abîmer son outil. Voilà. Comment ?
C'est pour montrer comment il s'extrait le harpon, en fait. Enfin, pour extraire une double rainure.
Oui. Mais je vais pas le faire avec ça. Hein. Il grattait, et ça pénètre bien, ça enlève des copeaux, ça pénètre. Et on peut détacher une baguette.
Ça, c'est un burin.
Ça, on appelle ça un burin en préhistoire. Ce qui est en fait, le modèle, c'est un bédane, hein, en mécanique. Autrefois, on travaillait la tôle, hein, pour découper les pièces un peu épaisses, on prenait un bédane, ou bec d'âne, ça se disait. Pas pourquoi un âne, ça n'a pas un bec, mais c'est comme ça. Alors, d'ailleurs, ils appellent ça, en anglais, ils appellent ça burine ou chisel, ou un truc comme ça, ciseau, ils appellent ça aussi. Bon, en fait, c'est une scie qui a une seule dent. Et ça coince pas, c'est auto, vous voyez, quand ça pénètre, ça se coince pas. Alors, on peut, comme ça, rainurer de chaque côté et détacher une baguette. Et on peut ensuite affûter la baguette avec les bords de cet outil. Tu veux faire ? Alors, il y a un autre burin qui est double, si vous voulez, qui s'appelle en bec de flûte. Tu vas nous en faire un. une autre façon de voir les burins. Il y a beaucoup de sortes de burins dans les catalogues. On en voit à peu près au moins une quinzaine de sortes de burins qui portent tous des noms. Il y a le burin de Noailles, il y a le burin de Bassalaire, il y a le burin, enfin voilà, l'endroit où on l'a trouvé la première fois. Et on ne sait pas toujours à quoi ça servait. Il y en a qui sont grands comme ça. Et on s'est aperçu en regardant les traces d'usure que ça servait à éplucher les herbes. Il faut, par exemple, si je veux me faire une sacoche en ortie, par exemple, ou en lin, si j'ai du lin haute, il faut éplucher, il faut écraser les fibres, il faut les préparer. Hein. Et ils avaient ces tout petits burins, et ils écrasaient comme ça, sûrement, tenus emmanchés, ils avaient des tout petits burins. On a cru que c'était pour travailler le bois de Rennes. Non, c'est pour travailler les végétaux, parce qu'au microscope, on trouve des traces d'usure dues à la présence de végétaux. Hein ? L'étude des traces au microscope pouvant être extrêmement précise, puisqu'on a des moyens maintenant de savoir exactement les éléments chimiques qui sont déposés sur et ça puisse conserver. Par exemple, si avec un outil en silex, je gratte de l'os, hein, un os d'animal comme ça, je mets un faisceau de rayons X là-dessus qui va me répondre « Ah, il y a de l'hydroxyapatite ». Bon, alors la formule chimique, hein, il y a de l'hydrogène, il y a du carbone, il y a de l'oxygène, tout ça. Et c'est le constituant principal de l'os. Tu me feras une armature mésolithique avec autre chose. Et un grattoir. Voilà, c'est bien d'avoir son manœuvre. Non, parce que tailler et expliquer en même temps, c'est... Moi, je trouve que c'est pas évident, j'ai jamais pu le faire, alors... Voilà. Il a détaché un autre éclat de l'autre côté, puis il a fait un burin qui peut rater, mais qui est en bec de flûte, si vous voulez. Hein, en bec de flûte. Mais ça dépend aussi du silex. Il y a des silex qui sont faciles à travailler, d'autres qui sont difficiles. Ça, c'est un silex de Bergerac, mais qui a des petits fossiles creux dedans, qui n'est pas évident, en fait. C'est pas l'allure visuelle du silex qui indique les choses. Il faut essayer pour voir s'il est bon ou non. Alors, un autre outil, c'est par exemple le grattoir. Alors, il faut préparer les pots, là aussi. Alors, attention, ça coupe beaucoup. Hein ? Beaucoup, c'est comme un couteau qui coupe beaucoup. Alors, tu te coupes pas. Voilà, il a pris une lame et là, il lui a fait un front. Oui.
Les lames sont associées
au... Non. Néandertal a fabriqué des lames 100 000 ans avant Cro-Magnon. Avant Cro-Magnon, on a des lames, en particulier dans le nord du bassin parisien. Mais il ne faisait pas de la même façon que Cro-Magnon. Quelquefois, il a fait de la même façon, mais il a fait des éclats longs. Alors, Cro-Magnon est l'obsession de la lame, a fabriqué des lames ici, à Étiol, hein, près d'Evry. Il a fabriqué des lames, et il y en a une comme ça, une première lame, qui fait que 60, hein, 60 cm de long. Oui, 60 cm de long. Première lame. C'est la plus grande lame du monde. Hein. Très bon silex, très bonne préparation, et puis un coup de chance aussi, mais il savait tailler, le gars. Hein. Donc, mais très bon silex, on ne peut pas le faire, si on a un mauvais silex, on ne fera rien du tout, quoi. C'est pas... Voilà. Mais Néandertal a fait des lames avant, mais beaucoup moins. C'était pas son truc. Alors effectivement, c'est une économie de matière première. À partir d'un bloc, vous avez une longueur de tranchant des dizaines de mètres, alors qu'un biface, le tranchant, c'est 40, 30 cm, quoi. Hein, donc une certaine économie. Alors, au fur et à mesure que l'histoire de Cro-Magnon se passe, il diminue la taille de ses lames. Alors, dès le début, il fait des fois des toutes petites lamelles. Alors, pourquoi il fait des toutes petites lamelles ? Eh bien, tu me fais une toute petite lamelle à dos ? Parce que ma saguée est pointue. Alors, vous voyez, la saguée, vous la voyez pointue, là. Elle rentre dans la bête, mais la bête, elle va pas mourir tout de suite. Hein. Même si ça lui rentre dans le cœur, tant qu'on lui a pas retiré la saguée, il va peut-être pas saigner, il va courir peut-être 2-3 km. Alors, en région glaciaire, hein, quand vous avez tout le troupeau de rennes qui vous arrive dessus, vous en avez un, il s'en va, on s'occupe duquel, enfin, c'est pas possible, il faut que la bête meure vite. Alors, question de tuer les trucs, les gens, ça, l'être humain, il est au point là-dessus. Et il va transformer cette pointe, si vous voulez, hein, en véritable couteau. Alors ça, bon, c'est un peu pointu, mais c'est pour faire de la rétention, ça. Hein. C'est un harpon, donc c'est un autre système, tout à fait autre chose. Ça, c'est pour... Il y en a qui disent qu'on a chassé le renne avec ça. Moi, je veux bien, mais rentrer ça dans une peau de renne, il faut s'y prendre d'avance. Et puis, je vois pas, on va pas les retirer, tirer sur le renne. Enfin, bon, c'est... Mais ça, c'est pour le poisson. Et d'ailleurs, c'était souvent emmanché sur un morceau de bois, et ça servait comme une fourchette. Ils pouvaient en mettre trois, on appelle des feunes. Bon, pour la chasse aux oiseaux au Groenland, ils mettaient... Un harpon comme ça, un là et un là, ceux-là avec une rangée de barbelures de chaque côté, sur un gros manche, et il lançait ça, et ça passait, ça se prenait dans les pattes de l'oiseau ou dans les ailes. Hein, c'était pour chasser des lances à oiseaux, si vous voulez. Hein. Et ça, ça retient bien. Hein, c'est bon. Là, il faut blesser la bête, il faut qu'elle saigne immédiatement. Alors, tout simplement, vous prenez une pointe en bois de renne, et vous allez coller des petits couteaux. Des toutes petites lamelles, tu m'en as fait une, voilà, sitôt dit, sitôt fait, je te rends ça. Tu fais une armature mésolithique. Voilà, il a fait une petite lamelle, il a abattu qu'elle soit plus coupante, et on la colle ici. On en colle plusieurs. Alors celle-là, la première, on la met un petit peu pointue pour qu'elle soit comme ça, et on en met toute une série. Alors ça, quand ça vous rentre dedans, bon, ça rentre, mais ça vous fait un double couteau. Alors ça, c'est hyper coupant, hein, bien sûr. Alors ça, on est sûr de tuer la bête. Alors on a essayé sur des sangliers ou des choses comme ça, et puis c'est très rapide. Hein, voilà. Tout à l'heure, il y a Madame Claudine Carlin qui a fouillé à Pincevent-Seine-et-Marne. C'est juste en aval de Montreux, au bord de la Seine. Un chasseur, vous y étiez ? Chasseur de rennes, oui. Elle a montré un petit bout de saguet. Il y avait encore deux lamelles collées. C'est unique en France. En Russie, on en trouve souvent parce qu'ils ont des aires d'habitat énormes. Ils ont des conditions de conservation dans le Leus fabuleuses, des fouilles monstrueuses. Enfin bon. Et là, on a beaucoup d'exemples de saguets avec des petites lamelles collées des deux côtés. Hein. Alors, quelle colle on prend ? Bah, on prend n'importe quelle colle, c'est-à-dire que... Enfin, je dis n'importe quelle colle, mais on peut prendre de la résine. Hein, et on met un petit peu d'encre rouge, hein, de pâte, pour pas que la résine se craquelle quand elle se refroidit, parce qu'on l'a fait un petit peu chauffer. Hein, et puis on peut rajouter un petit peu un corps gras, par exemple, ou une huile de lin, si on est à une autre époque. Ou alors on fait au goudron de bouleau, on distille les feuilles de bouleau, ou l'écorce de bouleau, on le distille, il y a un goudron, ce qu'on appelle la bétuline, qui sort, qui bave, qui devient noirâtre, et ça sert de colle, hein, de colle à chaud. Hein, puis voilà. Donc on peut coller celle de Pincevent, on ne sait pas ce que c'était parce qu'il n'y en a pas assez de colle, mais dans la grotte de Lascaux, on a trouvé une douzaine de lamelles, il y a encore la colle. Il y a les traces du doigt qui a appuyé la colle. Et il y a l'empreinte du support sur lequel c'était collé. Le support a disparu. C'était peut-être en bois végétal. Une pointe de saguet pouvait être en bois dur, tout simplement, oui.
Non, je vais
les... Ah oui, pardon. Donc voilà.
Quelle distance de la bête pour la tuer quand elle était lancée ?
Ça dépend de ce qu'on lance. Si c'est à l'arc, c'est, je sais pas, c'est un 20, 30, 50 mètres. Si c'est, ou moins, si c'est au propulseur, je crois qu'on peut aller jusqu'à 50 mètres à peu près au propulseur, je crois, je sais pas. Un propulseur, vous savez, c'est un crochet, c'est une rallonge du bras avec un crochet. Mais c'est pas un simple levier. Qu'est-ce qui va le plus vite ? C'est le poignet, c'est pas le coude. Et puis si je mets une rallonge, qu'est-ce qui va le plus vite ? C'est le bout de la rallonge. Bon. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en plus, il y a le mouvement du coude qui se déplie. Alors ça, bah, je fais du 100 à l'heure, hein, mon coude. Et le poignet qui se déplie. Bah, je fais encore du 50 à l'heure ou autre. La saguet part, il paraît, jusqu'à 200 km/h. Et même la saguet, on la voit sur un film, elle ondule. Si elle est un petit peu élastique et même elle ondule parce qu'elle est souvent élastique, une saguet c'est pas raide, on la voit, elle part comme ça, c'est ahurissant comme phénomène, hein, donc c'est pas le levier, c'est tout un mouvement mécanique qui, voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, ça c'est. Alors ça, on trouvait des milliers de ces. Quand on fouillait en Dordogne, tout ça, on remplissait les bouteilles, les bouteilles d'eau vides avec ces petites lamelles pour pas les perdre. Quand on fouillait des anciennes fouilles où ils n'avaient pas tamisé, on tamisait, on trouvait des lamelles. Les gars, puis alors les retouches, puis alors les lamelles, celles-là, les grosses, pour la voir, mais il y en a qui font 2 mm de largeur, 2 mm, hein, et sur 1 cm de longueur ou 1 cm et demi. Vous voyez, l'homme préhistorique est très minutieux, hein, la grosse bête comme ça, non, c'est, il voyait bien, peut-être qu'il était même myope, celui qui taillait, mais bon, voilà. Et on ne savait pas à quoi ça servait. Maintenant, on est sûr du... Et ils en faisaient à toute époque de l'homme de Cro-Magnon. Ils en faisaient des minuscules, des qui étaient torses. Alors c'est pareil, il faisait une lame non plus droite, mais tordue. Depuis 35 000 ans. Depuis, il y a 35-40 000 ans, à l'Aurignacien, ils faisaient des lamelles torses, c'est-à-dire qui sont d'abord tordues sur elles-mêmes comme ça, et puis qui vrillent. On s'est dit, ils ne sont pas adroits, ils font. Eh bien, ils faisaient tout pour avoir des lamelles torses. Et c'est Jacques Tixier qui a démontré ça. Le noyau d'où on tirait ses lamelles, hein, son nucléus, il le faisait avec une encoche de côté, enfin je vous dis pas, pour que les lamelles, elles sortent pas droites. Alors pour que quand les choses devaient tourner, enfin je sais pas. C'est, puis des obsessions d'époque, des modes. Hein. C'est les voitures, il y en a qui ont des calandres comme ça. Pourquoi des phares carrés, pourquoi on ne les fait pas rond? Enfin bon, voilà, ils avaient des lamelles torses. Hein, une espèce de. C'est quand même fabuleux comme idée de fabriquer ça.
C'est la technique du collage.
Oui. Oui, c'est. Alors, tout à l'heure, on vous a montré un petit foyer à Pincevent au bord de la Seine qui s'est conservé, et ils ont brûlé du poisson dedans. On trouve des petites vertèbres de poisson, puis peut-être des écailles, je sais pas, mais un petit foyer et de petits poissons. C'est souvent pas du poisson pour manger, on pense que c'est un foyer pour fabriquer de la colle de poisson. Et effectivement, il y a des abris sous roche en Dordogne, on a trouvé de l'esturgeon. Alors au début, on ne sait pas ce que on le reconnaissait pas parce que l'esturgeon, ça n'a pas de squelette. Hein, c'est un poisson tout cartilagineux. Par contre, ils ont sur le côté des espèces de plaques à moitié losangiques piquantes ou je sais pas quoi. Et maintenant, on sait reconnaître les plaques d'esturgeon quand ça s'est conservé. Donc ça veut dire qu'ils devaient faire de la colle d'esturgeon. Et tout était collé. Les sagaies étaient collées, les pointes étaient collées sur le morceau de bois. Elles n'étaient pas rentrées dans le manche.
C'était de la recherche scientifique.
Ah bah oui, puis des coups de chance, et puis voilà, comme faire le feu. Quand on fait un trou, ça chauffe, ça brûle, pourquoi pas continuer, puis on fait du feu, peut-être, pas peut-être. Non. Alors, à une autre époque, on arrive, merci beaucoup, et tu me passes l'arme absolue. Ouais. À une autre époque, la dernière époque de l'âge de la pierre, si vous voulez, à l'époque du réchauffement climatique, juste avant les premiers cultivateurs, c'était. Alors, le climat change, il y a des forêts partout. Ben, on ne chasse plus avec une lance dans la forêt parce que le risque de se taper un arbre, hein, c'est majeur. Alors, pour tuer un sanglier ou un lapin, ben, tire à l'arc, vraiment de l'arc. Et faire une pointe, une flèche. C'est difficile, ce qui est dur, c'est de faire la flèche. Ça, on ne peut rien faire avec ça. Il faut du bois droit, il ne faut pas de défaut. Bon, alors il faut trouver le bon noisetier ou le bon bois possible. Voilà. Alors, ça, c'est précieux, donc, une hampe de flèche. Par contre, la pointe est beaucoup moins précieuse. Sauf pour celui qui l'a faite, bien sûr. Et là, il m'a fait une petite flèche triangulaire qui était. Il coupait. Et collé ici. Voilà, l'arme absolue du mésolithique. Alors, elle est piquante et coupante. Et en plus, pour fignoler les choses, ils en mettaient une ou deux autres latéralement. Alors, vous verrez, il y a une vitrine là-bas, si vous avez le temps de la voir, où il y a la pointe et il y a un couteau à côté. On a trouvé une flèche complète en Suède qui s'est conservée parce qu'elle est tombée dans de la tourbe, hein, dans un milieu humide, elle s'est conservée. Donc voilà. Alors, pourquoi il ne faisait pas un pédoncule pour l'enfoncer ici, bien fixé, comme les flèches de nos époques? C'est parce que quand je rate mon coup, si jamais je tape contre une pierre, ma flèche, elle va faire éclater le bois de la flèche, la pointe va faire éclater le bois, et ça c'est précieux. Alors si je dois tous les soirs raccourcir un peu, ben, au bout d'une semaine, j'ai plus qu'à l'acheter, tandis que là, si ça rate, ça se détache, c'est pas très fixé, pas à peine soit très solide, hein. Tout c'est, faut que ça rentre dans la peau, hein. Ben, la peau c'est pas un arbre, hein. Donc voilà. Et le soir, quand j'avais cassé ma pointe par exemple, ou voilà, et ben j'étais assis au coin du feu. Je chauffais mon extrémité, la pointe tombait, et j'en recollais une autre. Et justement, en archéologie, quand on fouille, ces pointes, elles sont souvent brûlées. Elles sont souvent cassées parce qu'elles ont servi. Et le silex est devenu tout blanc parce qu'il a chauffé. Puis il y a des petites cupules, ça éclate le silex. Il y a des petites cicatrices d'éclatement du chauffage. Ça veut dire que le gars, ben, le soir, il a détaché au-dessus du feu. La pointe est tombée dans le feu. Hein. Ben, il n'a pas été la ramasser parce qu'il était foutu. Par contre, nous, on est content de trouver la petite pointe. Et c'est pour ça qu'à cette époque, on trouve beaucoup de pointes qui sont brûlées. Hein, donc qui ont servi, hein, qui ont été échangés. Et puis, dernière grande migration, dernier grand apport humain, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, bah, il faut couper les arbres, hein, il faut labourer. Et couper les arbres, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une hache. Hein, une hache, bah, c'est un grand morceau de silex. Il y en a une dans une vitrine, mais elle est un peu... Je te rends ta pointe pour que tu la gardes. Merci. Alors une hache, imaginez, je fais une hache en pierre que je taille, comme un biface, si vous voulez. Et ensuite, je la polis. Et une hache, c'est une pierre de hache, c'est un tranchant poli. Et voilà, et je l'enfonce dans un grand morceau de bois. Mais l'ennui, c'est que... bon, ça, je coupe un arbre avec, mais l'ennui, c'est qu'il faut bien choisir le bois pour pas que ça rentre dans le manche et que ça fasse éclater le manche. Alors, on prend plutôt du bois qui est juste au niveau du départ des premières racines, où c'est tout en cheveux, en tourbillon, là, en machin, parce que c'est beaucoup plus solide, dit-on. Et puis, le malheur, c'est qu'il faut un grand bout de silex pour faire une hache. Puis une hache, ça s'use vite. Alors ils ont creusé des puits et voilà, ils sont descendus au fond des trous. Ils ont fait des puits de mine, d'abord des simples fosses, pour aller chercher le bon silex, puis de plus en plus profond. Elles font quelle profondeur à Spienne, les mines à peu près ?
Entre 10 et 16 mètres.
Voilà, jusqu'à 16 mètres de profondeur, ils descendaient et ils faisaient des galeries. Des galeries soutenues par des piliers qu'ils faisaient, enfin, ils gardaient des piliers de craie, de calcaire, et voilà, ils travaillaient dans des mines. Il y a même eu des accidents de mineurs, il y en a qui ont pris tout le paquet d'un ancien puits sur la tête, comme à Aubourg, et puis à, je sais plus. Ah bon, c'est ce que. Oui, je le sais depuis. J'ai déjà à midi, j'ai interrogé, c'est du montage. Ouais, je l'ai écrit dans les livres, mais tant pis. On en reparlera. Alors, donc, il faut. Alors, ici, au nord de Beauvais, il y a deux endroits qui s'appellent Hardivilliers et Troussancourt. C'est à côté de Breteuil-sur-Noye, où il y avait une grosse carrière de craie, où dans la craie, ils extrayaient du. Pour mettre dans les champs, là, du. Il y en a au Maroc, là, comment ça s'appelle ? Non, des phosphates. Voilà, c'est-à-dire des restes de corps de bêtes qui ont pourri sur place. On trouve plein de dents de requins. Ah, c'est les requins qui sont pourris, ça fait du phosphate. Et dans la carrière, on voyait, quand j'étais petit, j'y allais, je voyais une espèce un amas de roches, de dégoulinades dedans. En fait, c'est des anciens puits qui ont été abîmés par la carrière. Et effectivement, il y a beaucoup de puits. Alors, je ne sais pas combien. Alors, il y a un autre endroit qui s'appelle Jablin, qui se trouve à peu près à 10 km au nord du... du parc, pas Astérix, mais de l'autre. Alors, avant Astérix, c'était le parc...
Mer des Sables.
Non, mais près de... à l'est de Paris. Le parc... Mickey, là... Disneyland. Je suis vieux, hein. Euro Disney. À côté d'Euro Disney, il y a des... On voit 800 trous... Vu en avion, on voit 800 trucs noirs qui sont des remplissages de terre d'anciens puits et descendaient à maximum 8 mètres. Et en Normandie, au sud de Caen, on a 20 000 traces de trous de perforation. Sauf qu'ils trichaient, ils avaient de la chance plutôt, ils descendaient à 1,50 m au maximum, 1,50 m à 2 mètres pour avoir le bon silex. Et ils ont creusé 20 000 trous. On en a fouillé que 35, il y en a encore à fouiller. Alors dans les trous, on trouve des vieux pics de mineurs qu'ils ont abandonnés en bois de serre. Et puis autour, on trouve plein d'éclats, comme ici, plein de déchets de fabrication, des haches par exemple. Il fallait beaucoup de matières premières. Alors quand on n'avait pas de silex, on avait des haches dans une autre matière, on les faisait en... Je te prends ton... Alors, on les faisait en roches comme ça qu'on pouvait polir et tout ça, mais souvent c'est pas des bonnes roches. Par contre en Bretagne, ils ont ouvert une carrière à Plussulien, c'est dans le centre de la Bretagne, alors je sais jamais dans quel département, je crois que c'est l'Ille-et-Vilaine, mais je suis pas sûr, hein. Ou Côte d'Armor, ils extrayaient cette roche extrêmement dense, extrêmement solide, et ça s'appelle de la dolérite. Et si vous allez en Égypte, tous les les monuments égyptiens en pierre ont été piquetés, travaillés, les obélisques décollés de leur socle, tout, avec, on trouve des millions de galets que les Égyptiens ont utilisés pour taper, pour travailler la pierre. C'est très lourd, c'est de la dolérite. Donc en Bretagne, ils faisaient des écailles de dolérite, ils les polissaient, ils faisaient des haches. Et ces haches, tout l'ouest de la France, il y en a. Il y en a jusqu'en bassin parisien. Il y en a tout l'ouest et même le long de la Loire. Et voilà. Et elles étaient beaucoup plus petites. Alors pour les enfoncer dans le manche, ils les mettaient dans un morceau de bois de serre. Ils faisaient une gaine en bois de serre et c'est le bois de serre qu'ils mettaient dans le manche en bois. Et ça faisait amortisseur et ça faisait rallonge en même temps. Hein, vous voyez, c'est bon. Voilà. Les gens ont toujours eu des idées comme ça. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, regardez le geste. Il a pris un gros marteau en bois et il a pris un chasse-lame, un outil intermédiaire pour détacher une lame de son bloc de matière première. Comme il le faisait à cette époque du Mésolithique où on chassait à l'arc. Pour obtenir des lames les plus régulières possibles pour fabriquer les petites pointes de flèches triangulaires. Voilà. Alors voilà, vous voyez, alors elle est plus ou moins régulière, elle peut être irrégulière, mais ça dépend de la préparation. Pour vous dire que, vous voyez, c'était pas très spectaculaire, on a entendu le choc, c'est tout, et elle a détaché quand même un grand bout de silex, et qui est très mince, et qui est souvent très rectiligne. Tu vas montrer les cicatrices de ce que tu as fait, et voilà. Alors vous voyez, il prépare le bord, l'endroit où il va mettre le chasse-lame, il le prépare. Hein, pour qu'il soit un peu arrondi, qu'il ne soit pas trop anguleux, hein, et pour bien renforcer le bord, et parfois même il creuse une petite gouttière pour que le chasse-lame ne dérape pas, hein, ce qui est encore plus compliqué. Je t'ai pris ton petit retouchoir si tu en as besoin. Tu vas en faire une là-dessus pour vous montrer justement le débitage par percussion comme ça. Si vous avez des questions. Voilà, et puis sinon vous pouvez le voir travailler.
La question que j'ai, c'est ce silex blanc.
Ah non. C'est un moulage. C'est pour ça, parce qu'il est léger. Dans la sacoche, il est plus pratique. Oui, vous avez.
Ah, mais si.
Ah, mais ça, c'est
exactement la couleur du truc d'origine.
Mais ça, c'est pas.
Il vient de Bergerac.
De Bergerac.
Silex de Bergerac, c'est des silex de Dordogne.